une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leur troupe sillonne nos ruelles?
Salut, chers auditeurs. Aujourd'hui, il y a un petit billet d'Afrique dans lequel on va parler du passé colonial français en Algérie. Il y a mille et mille choses à dire sur cette période terrible de notre histoire commune, mais je vais me contenter aujourd'hui de vous lire deux textes parus récemment. Il s'est vécu tant de choses en Algérie qu'on ne sait pas forcément par quel bout prendre ce vaste sujet. Je précise, et c'est important, que je ne suis pas du tout une spécialiste et que des centaines d'ouvrages passionnants ont été publiés, si vous voulez explorer ce passé qui est à peu près tous le nôtre. Pourquoi seraient-ils tous le nôtre, vous vous dites, si vous avez grandi en Amérique du Sud ou en Guinée-Bissau, ou si vous êtes né il y a 15 ans? Eh bien, parce que l'armée coloniale française a, pendant la colonisation de l'Algérie, développé et testé de très nombreuses méthodes contre-insurrectionnelles qui ont ensuite fait école partout sur la planète. Mais qu'est-ce qu'une méthode contre-insurrectionnelle, vous demandez-vous? Eh bien, c'est une technique, une stratégie qui va servir à anéantir, en gros à tuer de l'intérieur, des mouvements politiques et sociaux qui seraient dangereux pour l'État. Comprenez, l'idée c'est de mettre à terre les contestataires pour faire perdurer l'ordre qui est établi. Et dans ce domaine, la France a excellé, au point de vendre ses méthodes à l'étranger. De très nombreuses révoltes sociales se sont fait mater grâce aux enseignements des vilains bidasses de France, enseignements testés et approuvés sur le terrain, sur les Algériennes et les Algériens. Depuis, ces méthodes ont également été très développées en France, testées la plupart du temps dans les quartiers populaires. Il y a un sociologue qui s'appelle Mathieu Rigouste qui a écrit un ouvrage passionnant qui s'appelle « L'ennemi intérieur » dans lequel il montre très bien comment les méthodes testées en Algérie se sont ensuite appliquées à l'intérieur du corps social français en se disant qu'il y avait l'ennemi à l'intérieur même du corps social et donc qu'il fallait le maîtriser, le mater. Ces méthodes de torture, d'infiltration de mouvements, de renseignements, comment isoler les militants, comment semer la terreur, comment diviser une population soudée, c'est autant de stratégies qui servent les politiques et qui ont notamment permis à plusieurs dictatures de se maintenir sur le continent sud-américain par le biais d'une école secrète de militaires français qui enseignait ces techniques de guerre sale dès la fin des années 50, avec ce qui s'appelait le plan Condor. C'est notre histoire à toutes donc, surtout si l'on rajoute que, si vous vivez sur le territoire français, une grosse partie de ce qui vous entoure a été créée par la main-d'œuvre immigrée. Et l'on sait toutes et tous que les Algériennes et les Algériens ont été parmi les premières lignes dans ce cas. Le premier texte que je vais vous lire révèle un bout très méconnu de cette histoire coloniale. C'est dans un article qui vient de paraître dans le National Geographic. Ce n'est pas là où je vais épuiser mes sources d'habitude, mais pourquoi pas. Ça s'appelle « Les camps d'Algérie, dernier tabou de la guerre ». Pendant la guerre d'Algérie, de 1954 à 1962, les autorités françaises ont déplacé de force près de la moitié de la population rurale algérienne dans des camps. C'est une histoire encore méconnue. À seulement 13 ans, Malek Kellou a vu son village se transformer en camp. Des barbelés électrifiés ont été installés tout autour des maisons, surveillés désormais par les soldats de l'armée française. Le village n'avait plus que deux portes, l'une à l'est pour aller chercher de l'eau, l'autre à l'ouest pour aller enterrer les morts. Pas de sortie avant 8 heures du matin, retour obligatoire avant 18 heures. En plus de cette liberté confisquée, l'adolescent a dû partager son pain, son eau et ses peines avec quatre autres familles venues s'installer au sein même de son foyer. Leur propre maison, nichée dans les hameaux alentours, avait été détruite par l'armée française. Ils ont été relogés de force à Mansoura, village devenu un camp de regroupement. Ses nouveaux colocataires issus de tribus différentes ne parlaient pas la même langue que lui. Je me souviens de ce jour comme si c'était aujourd'hui. Le village a complètement changé de visage. Avec ses camps, la misère totale s'est installée. Nous étions affamés, retrace-t-il aujourd'hui. L'armée française avait brûlé les récoltes pour qu'elles ne tombent pas dans les mains des combattants du Front de Libération Nationale, le FLN. Seul un peu de blé avait échappé au feu. Malek Kellou se souvient encore de cette semoule au goût de mazout, saveur qui ne partait jamais malgré les multiples lavages et le séchage du blé. Ces camps de regroupement ont été selon lui le point de départ d'une vie brisée par la guerre qui nous a donné droit à l'errance et à l'immigration. Voilà ce qu'il a confié à sa fille, Dorothée Myriam Kellou, autrice de Nancy Kabylie, qui plonge dans cette mémoire. Comme plus de 3 millions de personnes, soit environ la moitié de toute la population rurale algérienne, ce réalisateur d'aujourd'hui 79 ans a vécu les regroupements, des camps ou des villages placés sous surveillance de l'armée française. Si Malek Kellou n'a pas eu à partir de chez lui, la plupart des habitants ont dû emménager loin de chez eux contre leur gré. Cette politique de déplacement forcé de civils est l'une des plus massives du XXe siècle. Ces camps de regroupement pouvaient prendre des formes très différentes. Des tentes, des baraquements de fortune ou des villages déjà existants qui deviennent des camps de surveillance. La population variait, de 50 habitants jusqu'à 10 000. Mais la misère était le dénominateur commun, souligne Fabien Sacriste, historien et auteur du livre « Les camps de regroupement en Algérie ». La promiscuité et la sous-nutrition déciment les rangs. La plupart des regroupements sont situés loin des terres cultivées, déclarées zones interdites. Les paysans sont ainsi coupés de leurs moyens de subsistance, troupeaux, volailles, récoltes, surtout qu'ils ne connaissent pas leur nouvel environnement, les points d'eau, les zones où l'on trouve du gibier, les secteurs où pousse la végétation. Les paysans deviennent ainsi dépendants de l'armée française pour se nourrir, car ils ont perdu leur bétail dans le déplacement et abandonnent progressivement leurs terres, trop difficiles d'accès. Ils sont réduits à l'assistance, mais les rations distribuées sont insuffisantes, en particulier pour les populations vulnérables, souligne Dorothée Myriam Kellou. Dans certains camps, les conditions de vie sont si précaires que les enfants meurent sous les yeux de leurs parents. Dans un rapport paru en 1959, Michel Rocard, alors membre du Parti socialiste SFIO, écrit « Une loi empirique a été constatée. Lorsqu'un regroupement a atteint 1000 personnes, il y meurt à peu près un enfant tous les deux jours. » Même en utilisant les chiffres de propagande de l'armée et en les comparant aux chiffres de mortalité infantile avant les camps, on peut en conclure à une surmortalité infantile au sein des camps, ajoute Fabien Sacriste. En 1961, la Croix-Rouge publie un rapport aux conclusions sans appel. La situation dans ces camps est catastrophique, sans équivalent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Il s'agit avant tout de couper la population du Front National de Libération, de la placer sous surveillance militaire française. L'armée entendait ainsi priver les maquisards du soutien de la population. Cette dernière était toujours jugée suspecte, parfois parce que les populations avaient des liens familiaux avec le FLN, parfois simplement parce qu'ils étaient algériens. Explique Fabrice Sacriste. Malek Kellou voit aussi une autre raison. C'était une manière de nous soumettre, de nous pousser à nous engager du côté des Harkis. Ces supplétifs musulmans de l'armée française s'engageaient de ce côté-là pendant la guerre. C'était l'assurance d'un salaire confortable, d'une porte de sortie de la misère. Bien souvent, l'armée ne déplaçait pas les populations manu militari, mais classait les zones entières en zones interdites. Une manière de dire que ces endroits pouvaient être bombardés à tout moment. Les populations se déplaçaient alors pour chercher refuge. L'armée qualifiait ces mouvements de déplacements volontaires. Certains responsables ont aussi voulu présenter cette politique de déplacement forcé de civils comme l'outil d'une modernisation des campagnes. En réalité, la création arbitraire et non planifiée de ces nouveaux villages a accéléré la dépaysanisation et la déstructuration d'une société algérienne déjà bouleversée par un siècle et demi de colonisation, dont les effets sont toujours perceptibles aujourd'hui, souligne Fabien Sacriste. Des effets toujours perceptibles, qui demeurent pourtant entourés de silence. Dorothée Myriam Kellou n'avait jamais entendu parler des camps de regroupement avant ses 27 ans, quand son père s'est décidé à affronter sa mémoire. « J'ai jusque très tard évité de me confronter à toute situation qui aurait pu troubler ma nouvelle vie ici », retrace Malek Kellou, installée à Nancy depuis plus de 40 ans et mariée à une Française. « C'est douloureux de se replonger dans cette histoire. Avec l'exil, je voulais oublier », explique-t-il. Il n'est pas seul dans ce cas. J'ai une amie qui a tenté de faire un film sur sa grand-mère qui a, elle aussi, connu ces camps-là, mais c'était trop difficile de remuer ses souvenirs. Elle a dû abandonner, souligne Dorothée Myriam, qui a mis, elle, près de 8 ans, pour réaliser le film « À Mansoura, tu nous as séparés », film sur l'histoire intime des regroupements dans le village de son père. À cette occasion, Malek Kellou est retourné à Mansoura pour la première fois depuis 50 ans. L'occasion de diffuser, enfin, ce témoignage pour l'histoire. C'est ce contexte que je vais vous lire tout de suite et tiré du site de l'association Survie, mon inépuisable source d'information. Il se nomme « Gaza, un pensée coloniale, du soutien inconditionnel français à Israël ». Et il fait un lien que je trouve absolument intéressant entre ce qui a pu se passer en Algérie, sous l'armée coloniale française, et la façon dont aujourd'hui la France s'est rangée aux côtés d'Israël en soutenant leur action guerrière et coloniale tout en niant que c'en était une. On parle de notre passé, mais on parle aussi de notre présent. De Constantine à Gaza, des massacres du 20 août 1955 à ceux du 7 octobre 2023. En août 1955, dans le Constantinois, Youssef Sirhou, chef régional du FLN, organise une grande offensive contre l'occupant français. Elle vise militairement des gendarmeries et des postes de police et est doublée d'attentats et d'émeutes visant les colons et leurs alliés. Près de 170 Européens sont assassinés, le plus souvent à l'arme blanche ou à l'aide d'outils agricoles dans des conditions atroces. En retour, le gouvernement français et la presse métropolitaine s'emparent de ces crimes pour disqualifier le FLN, groupe terroriste barbare hors de toute humanité avec lequel il serait impossible de transiger, toute solidarité avec la cause indépendantiste déjà très largement inaudible et criminalisée. La réaction coloniale est brutale. Jacques Soustelle, résident régional, mobilise les appelés du contingent, étend l'état d'urgence à toute l'Algérie, laisse se développer des milices de colons et lâche la bride à une vengeance aveugle. Benjamin Stora, l'historien, la résume ainsi. La répression organisée par l'administration coloniale avec la police et surtout les militaires, mais aussi le concours spontané de milices civiles, sera à la fois impitoyable et totalement disproportionnée. L'armée bombarde en effet sans distinction de nombreux villages des environs, procède à des rafles massives d'hommes âgés de 15 à 70 ans, les entasse dans le stade municipal de Constantine avant de les fusiller pour la plupart. On estime que ces massacres ont fait plus de 10 000 victimes. Dans un contexte de guerre coloniale, donc raciste, ces morts ne comptent pas. L'histoire ne se répète jamais et l'analogie ne tient pas de bout en bout. Mais on retrouve des mécanismes qui font évidemment penser à la situation actuelle entre Israël et la Palestine. Un massacre commis par un groupe armé radicalisé se revendiquant d'une libération nationale. Une répression aveugle et indistincte, une opinion publique travaillée pour ne voir qu'une partie des violences. Et surtout, un processus colonial ancien et brutal, quasiment oblitéré. On en viendrait presque à croire que ce sont les Palestiniens qui depuis 75 ans occupent et grignotent des territoires israéliens. Qu'en Israël, pays dirigé par une droite coloniale, elle-même extrémiste, l'on puisse entendre de la bouche du ministre de la Défense Yoav Gallant le 9 octobre qu'il s'agit d'un combat contre des animaux humains ne semble pas si incongru. Le gouvernement israélien présente de même les bombardements massifs sur Gaza comme un conflit civilisationnel entre une démocratie attaquée, dans son essence donc plus largement entre les valeurs de l'Occident et celles d'un groupe terroriste barbare représentant le djihadisme global. Mais qu'en France, ce type de rhétorique puisse être adopté au point d'être dominante, cela en dit beaucoup sur l'impensé, voire le continuum colonial qui structure encore notre pays. Il est évident que les atrocités de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre nous blessent toutes et tous dans notre humanité. Mais pendant plusieurs semaines, l'émotion causée par ces massacres a été instrumentalisée pour verrouiller le débat public sur une position univoque de soutien à Israël, sans jamais évoquer sa structure coloniale de cet État, ni s'émouvoir des milliers de Gazaouis qui meurent sous les bombes. Le racisme et l'islamophobie à l'œuvre dans notre société participent à déshumaniser les Palestiniens dans un écrasement identitaire plus large qui crée le fantasme d'un islamiste terroriste mondialisé, violent, barbare et sanguinaire, que ce soit au Bataclan, en Syrie ou au Sahel. Ainsi, Catherine Colonna, ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, a pu déclarer le 15 octobre 2023 qu'Israël a le droit de se défendre face à la monstruosité du Hamas et du danger qu'il représente. Israël est une grande démocratie. C'est la marque des démocraties que de respecter le droit. Ou bien aussi, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui affirme le 22 octobre que rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, va plus loin encore. le 16 octobre et se félicite du renseignement fourni à Israël. Enfin, Emmanuel Macron, lui-même, va jusqu'à proposer lors de son voyage en Israël le 25 octobre la constitution d'une coalition internationale pour lutter contre le Hamas. On cherche vainement ici la position équilibrée et utile tant vantée par le président français. Criminalisation des solidarités anticoloniales. Pire, nous assistons à une radicalisation des discours publics en France et à des tentatives de criminalisation de tout raisonnement, ne serait-ce qu'un peu plus nuancé. Cette offensive vient d'une part de l'extrême droitisation du paysage médiatique, dans le sillage de l'Empire Bolloré, mais aussi principalement des responsables politiques en poste. Ainsi, pendant près de 15 jours, toutes les manifestations de soutien à la Palestine ont été interdites, Gérald Darmanin affirmant le 24 octobre qu'elles sont de fait des manifestations pro-Hamas. Ainsi, par exemple, tant d'autres, à Toulouse, un rassemblement organisé pour la commémoration du massacre colonial du 17 octobre 1961, qui est un massacre contre des Algériens fait en France, à Paris, s'est vu interdire, au motif qu'il liait cet événement, tragique, historique et reconnu de l'histoire nationale, à la dénonciation des pratiques impérialistes coloniales et racistes d'aujourd'hui. L'interdiction préfectorale va jusqu'à indiquer que la tenue d'une manifestation de soutien au peuple palestinien constitue en elle-même une atteinte à la dignité humaine et un trouble à l'ordre public. Et qu'une telle manifestation vise à provoquer ou légitimer des actions de nature terroriste. Avec de tels arguments, il devient facile de cibler pour apologie du terrorisme des associations de soutien aux Palestiniens ou des députés d'opposition comme Daniel Obono et de légitimer une dérive autoritaire inquiétante. Ce texte est terminé et je voudrais rajouter une note personnelle. Il ne me paraît pas possible de regarder les actes du Hamas le 7 octobre comme seulement des actes de résistance. On peut entendre également des actes salutaires. Ai-je entendu un soulèvement ? Non. Il s'agissait effectivement de barbarie, tuer des civils, que ce soit pendant leur sommeil ou qu'ils soient réveillés, aller chez eux. Tuer des pères qui protègent leurs enfants, assassiner de vieilles personnes, en kidnapper d'autres, n'a rien de salvateur pour personne. Il ne faut jamais nier que la judéité supposée des personnes ait été un motif. Il ne faut donc pas enlever le possible antisémitisme des soldats du Hamas. Maintenant que cela est dit, comment peut-on faire la part des choses entre l'antisémitisme qui a sûrement poussé une partie des combattants, le désir de libération d'une population qui donc, de fait, soutient le Hamas puisque c'est leur proposition, en menant ces actions guerrières, de faire entendre la voix des Palestiniens qui sont enfermés derrière les trois murs et la mer qu'est Gaza. Et d'autre part, la situation aujourd'hui qui est injustifiable parce que non seulement on ne se concentre que sur l'horreur quotidienne sans rien y faire, mais en plus, on oublie de questionner les 75 dernières années et l'avenir. Les Gazaouis, les Palestiniens de 48 et les Palestiniens de Cisjordanie vivent sous une occupation, aujourd'hui comme hier. Et ça, c'est un droit de se révolter contre. Comment ? Sûrement pas en allant assassiner des civils. Mais qu'aurait-il pu faire qui soit audible pour nous ? Ça, c'est une vraie question. Que peuvent faire les Palestiniennes et les Palestiniens ? À part tendre l'autre joue, qui nous paraissent légitimes, qui nous paraissent mesurées et qui, à la fois, fasse que l'on réagisse. Puisque là, plus de 30 000 personnes sont décédées officiellement, plus, bien sûr, toutes les personnes qu'il y a sous les décombres, et ça ne semble pas justifier la fin des opérations, ni remettre en question l'œuvre coloniale qu'est Israël. Alors que faut-il ? C'est une question ouverte, mais je ne pense pas que le silence et se ranger derrière l'État israélien ou crier à l'antisémitisme, j'entends crier parce que dénoncer l'antisémitisme me paraît important, mais l'instrumentalisation de l'antisémitisme me paraît problématique. Et donc crier au loup me paraît dangereux et peu constructif aujourd'hui. Sur cette réflexion, je vous invite à trouver un papier et un crayon, puisque je vous propose en dernière partie de prendre des petites notes de noms de films qui parlent de l'Algérie coloniale et qui sont de chouettes pépites. On se retrouve dans la dernière partie de ce petit billet d'Afrique consacré à l'Algérie coloniale et je vous propose de prendre des notes à propos de films que je vous conseille vivement de voir. Je propose des films parce que je pense que c'est des fois plus facile pour aborder un sujet et que cela permette d'aborder l'histoire coloniale française en Algérie et peut-être de comprendre comment il ne s'agit pas de méchants et de gentils, notamment avec le film de René Vautier. Parce que à un moment, quand une population est prise, j'entends la population de la partie coloniale, est prise dans un mécanisme collectif, est engrainée, on va dire, il est difficile pour elle de faire preuve de discernement. Encore une fois, le parallèle avec ce qui est vécu aujourd'hui en Palestine est intéressant, puisque je pense que tout un tas de personnes qui sont nées israéliennes et qui se retrouvent aujourd'hui sionistes et solidaires de l'armée, voire même réservistes, sont pris dans une logique de nationalisme qu'il est difficile de critiquer depuis là-bas. Néanmoins, continuons la critique. Le premier film que je vous propose de voir est un très vieux film, un noir et blanc, qui n'est pas facile à voir, attention je vous préviens, mais qui est considéré par de très nombreux historiens comme ce qu'il y a de plus fidèle. Ce n'est pas un documentaire, mais de plus fidèle avec la réalité de l'époque. Ça se passe dans la vieille ville d'Alger, et ça s'appelle « La bataille d'Alger ». Dans ce film, attention encore une fois, difficile à voir, vous pouvez suivre l'histoire de personnes qui sont en résistance contre l'armée française, et là, les méthodes qu'ils utilisent pour louvoyer, pour réussir à résister, passer entre les filets, et les méthodes que l'armée française en face, elle aussi, utilise contre-insurrectionnelle, comme j'ai parlé au début de cette émission, et aussi de guerre urbaine pure et simple. Voilà, ça s'appelle donc « La bataille d'Alger ». C'est un film en noir et blanc, pas forcément facile à trouver, mais que je vous conseille très, très vivement. Le deuxième film est un film, on avance un tout petit peu dans le temps de la réalisation. C'est un film couleur, celui-ci, qu'on croirait vraiment, vraiment être un documentaire. C'est un film de René Vautier. Si vous ne connaissez pas René Vautier, c'est un anticolonialiste passionnant qui a réalisé plusieurs films. C'est notamment lui qui a fait le court-métrage « Afrique 50 », qui est une mine d'informations en Afrique de l'Ouest sur la France coloniale aussi. Et donc, ce film s'appelle « Avoir 20 ans dans les Aurès ». Encore une fois, quand vous allez le visionner, vous croirez sûrement être en train de regarder un documentaire. On accompagne des appelés qui sont plutôt pas très nationalistes, même plutôt un peu des rebelles, un peu des bretons, un peu des anarchistes. En tout cas, ils n'ont pas du tout l'intention d'aller servir l'armée. Et puis, on les suit dans ce service qu'ils se retrouvent à faire en Algérie. Et on voit comment, petit à petit, ils glissent et ils s'engrènent et ils finissent par être, évidemment, l'ennemi des Algériens. C'est un film qui n'a pas beaucoup de scènes de bataille à proprement parler, même s'il y a des scènes extrêmement, extrêmement difficiles dedans. Mais c'est un film que je conseille à toute personne un peu solide de voir, réellement même à plusieurs. C'est peut-être pour moi le film qui m'a le plus marqué sur ce processus où l'on devient tous et toutes les protecteurs du pouvoir que l'on critique à un moment ou à un autre, pris dans la machine infernale qu'est le colonialisme. Après cette grande œuvre militante, le troisième film que je vous propose est une fiction beaucoup plus grand public qui s'appelle « Nuit noire » et qui retrace la nuit du 17 octobre 1961 dont je parlais un petit peu plus tôt. Le 17 octobre 1961, des centaines de personnes ont été assassinées par la police française, des centaines de personnes algériennes qui marchaient pacifiquement pour leurs droits. À l'époque, algériennes et algériens étaient parqués dans les bidonvilles français. On voulait bien de leur main-d'œuvre immigrée, mais sûrement pas leur octroyer une vie décente. À cette époque-là, le préfet de Paris s'appelle Maurice Papon et cet infâme personnage va ordonner à la police française d'attaquer les manifestants. Avec quelques personnages, on retrace donc les événements du 17 octobre. Évidemment, ce n'est encore pas un film facile, mais c'est un film très très accessible à tout le monde. Je vous conseille de le voir donc. Et dernier film que je vous proposerai aujourd'hui, toujours sur la question de l'Algérie coloniale, c'est une pépite. Mythe, c'est un film réalisé par Alexandra Daul qui s'appelle Mujahidat. Comprenez, les résistantes. Mujahidat, c'est un reportage, pour le coup c'est le seul qui est réellement un documentaire, qui interroge des femmes algériennes qui sont rentrées en résistance et donc pour rentrer en résistance, elles sont rentrées surtout en clandestinité pendant des années. Ces résistantes nous racontent sur leur canapé comment ça s'est passé pour elles de résister contre l'armée française, bien sûr, mais surtout de tout quitter et de faire cet engagement incroyable qui les a coupées de toute leur vie normale, de toute leur famille. Pendant plusieurs années, quel a été ce sacrifice et cet engagement ? C'est une pépite extrêmement, extrêmement précieuse. Là encore, ce sont des témoignages rarissimes. Alexandra Daul a fait un travail incroyable pour libérer la parole de ces femmes et qu'elles nous parviennent. Voilà, je vous invite vivement, vivement à trouver le film qui, il me semble, est accessible avec un petit paiement sur Internet. Alexandra Daul est aussi la réalisatrice du film « Derrière les fronts, résistance et résilience en Palestine », qui est un film exceptionnel sur Sama Jaber. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, alors attention, là vraiment, ça vaut complètement le coup. Sama Jaber est une psychiatre et psychanalyste, héritière de Frantz Fanon. Qui est Frantz Fanon ? C'est cet intellectuel français, assez méconnu finalement dans le monde francophone, très étudié de partout dans le monde. C'est un précurseur qui, dans les années 50, est devenu psychiatre et a étudié les effets de la colonisation sur les sujets colonisés. C'est-à-dire qu'il est venu, en tant que psychiatre, regarder ce que les mécanismes de colonisation finissent par induire entre le colonisateur et le personne colonisée. On parle évidemment bien là de racisme, mais on parle aussi de tout un tas d'autres choses intégrées qui vont nuire au développement d'une société et à l'égalité entre les peuples par la suite. Frantz Fanon a écrit de très très nombreux ouvrages. Il a écrit sa thèse qui s'appelle « Peau noire et masque blanc » qui est un petit livre franchement très accessible. Il a écrit « L'évident, les damnés de la terre » que vous connaissez très sûrement. Il a fini par mourir algérien en allant lui aussi servir le FLN, tiens. Et il a été donc en service comme psychiatre de très nombreuses années auprès d'Algériens qui avaient subi la France coloniale. Pour revenir à Sama Jaber, elle est palestinienne et elle fait ce que Fanon faisait à l'époque, mais aujourd'hui est en Palestine. C'est-à-dire qu'elle reçoit patientes et patients qui vivent sous cet état colonial qu'impose Israël. Et elle les accompagne, fournit une analyse et elle écrit. Sama Jaber tient un blog qui s'appelle donc « Derrière les fronts ». Ce blog est tout à fait passionnant. Un livre a été sorti avec la réalisatrice dont je vous parlais, Alexandra Daul, la réalisatrice de Mujahidat, a pris la peine d'aller la rencontrer et a convaincu Sama Jaber de participer à ce film, d'être le sujet de ce film. Il est incroyable ce film parce qu'il nous permet autant de voir les interactions qu'elle mène avec les Israéliens. Et puis elle a fini par accepter de travailler pour l'autorité palestinienne malgré ses critiques dans le service de santé mentale. La santé mentale à Palestine, on peut s'en douter, est un sujet colossal dans lequel on peut se plonger malheureusement pour les milliers de prochaines années. Et elle va travailler là-dedans, elle met les mains là-dedans, c'est son quotidien, mais en même temps, elle-même vit sous le même état colonial. C'est exceptionnel, tout est incroyable dans ce film. Moi, j'ai pleuré du début à la fin, peut-être que ça ne vous fera pas cet effet. Mais voilà, lui aussi, on peut le voir en tapant « Derrière les fronts, résistance et résilience en Palestine ». Il y a un petit onglet sur Internet qui nous permet d'aller, pour une très modique somme, voir ce film. Voilà, sur ces bons petits conseils cinéphiles politiques, je vous propose enfin une lecture. Je vous propose d'emprunter à la médiathèque d'Aubenas une BD magnifique qui s'appelle « Les Mohammed ». C'est une adaptation du livre du même nom. Et ça vient chercher les personnes âgées algériennes qui sont venues immigrer en France, de vieux messieurs qui vivent aujourd'hui dans des foyers Sonacotra. Ce sont leurs témoignages, leur parcours de vie. C'est extrêmement touchant. Arriver en BD, c'est très très accessible. Et voilà, c'est une histoire qu'on devrait tous et toutes partager, qu'on devrait tous et toutes connaître. Encore une fois, ces personnes ont travaillé pour l'état dans lequel on vit, ont permis la richesse de l'état dans lequel on habite, ont construit les maisons. Je me souviens de cette phrase de Manu Larcenet, « Les Français ont tellement peur des Arabes qu'ils oublient que c'est eux qui ont construit leurs maisons ». Eh bien, c'est tout à fait ça. Là, il s'agit de rencontrer ces personnes qui ont été à l'autre bout de la chaîne, d'écouter leur histoire, de prendre un temps pour regarder le parcours de solitude que ça a voulu dire, de tout quitter, l'exil, etc. Voilà, Les Mohammed en BD, c'est disponible à la médiathèque d'Aubenas. Sur ces petites paroles, je vous laisse. Aujourd'hui, on va s'écouter Nique la France parce que ça fait du bien et qu'il passe pas souvent à la radio. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre billet d'Afrique. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter et de rester à l'écoute de Fréquence 7.
ZEP, zone d'expression populaire. Encore un nouvel affront qui fera jacter dans les chaumières. Devoir d'insolence, devoir d'irrévérence, devoir de résistance. On n'est pas là pour leur plaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé, maintenant c'est formel, ça y est, c'est confirmé. Par voie ministérielle, les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés, carte blanche pour les gros pauvres qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels, un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Est-ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles? Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants. Affligeante l'évolution en 60 ans. Regarde à l'Assemblée, il y a que des culs tout blancs. Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon. Quand t'adhères à leur projet, quand tu cautionnes leur saloperie, leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes ils adorent le couscous et Cheikh Khaled, mais ils flippent que leur fille leur amène à Mohammed. Fais pas t'en étonner, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rastons qui n'ont jamais enlevé leur costume de colon. Le racisme est dans vos murs et dans vos livres scolaires, dans vos souvenirs, dans votre histoire dont vous êtes si fiers, omniprésents. Il est banal et ordinaire, il est dans vos mémoires et impossible de s'en défaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Et toi alors, petit socialiste hypocrite, j'ai pour toi quelques rimes amèrement écrites. Tu nous as dit que ta cause était celle des sans-papiers, qu'elle était antiraciste. Tu nous as promis l'égalité, tu nous as fait miroiter, rêver d'une France meilleure. Mais tu triches, tu récupères comme avec la marche des beurs. Manipulateur, tu cours après l'électeur, mais on t'a démasqué, toi et ton parti d'usurpateur. Et à nos intellos, nos petits fachos à lunettes, nos têtes à claques comme la connasse de Fourest. Ils propagent, alimentent la haine du musulman, du banlieusard, avec leur discours stigmatique, leur discours arrogant, insultant et méprisant. On lui présente leur propagande dans les médias dominants. C'est l'union sacrée contre l'envahisseur, le barbare, le sauvage, contre l'ennemi intérieur. Mais on va pas se laisser faire, se laisser baïonner. On va pas lâcher l'affaire comme Élie du LKP. C'est mon devoir d'insolence, mon devoir d'irrévérence, mon devoir d'impolitesse, mon devoir de résistance. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et et son histoire impérialiste. Ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste. Ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste. Ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes.